Bonjour et bienvenue à la balado Santé et Société. Je m'appelle Kate Bouchard, je travaille à l'Institut Santé et Société de l'Université du Québec à Montréal. Cette balado est l'occasion de discuter d'enjeux de santé depuis plusieurs points de vue et de faire connaître les expertises de nos membres. Bienvenue à l'épisode 1 de la balado Santé et Société, où nous discuterons d'inégalités sociales de santé et la petite enfance avec la professeure Julie Poisson et Sarah Pisanou, directrice de programme à l'organisme La Maison Bleue. Bonne écoute! Pour faire leur présentation, je vais commencer avec Mme Julie Poisson, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée, et elle est aussi membre au conseil interfacultaire de l'Institut Santé et Société depuis 2018. Avant d'être professeure, elle a travaillé pendant 15 ans comme experte conseil sur la périnatalité et la petite enfance à l'Institut national de santé publique. On a avec nous aujourd'hui Mme Sarah Pisanou, directrice de programme à la Maison Bleue. Elle supervise tout ce qui concerne l'offre de services, le transfert de connaissances et la recherche. Pour vous dire un petit mot sur la Maison Bleue, c'est une organisation en périnatalité sociale et Sarah nous fera un portrait plus élaboré plus tard. Alors, si je peux lancer la discussion avec vous, j'aimerais d'abord qu'on parle d'inégalités sociales de santé et aussi la pertinence de les réduire dès la petite enfance.
Oui, bien, c'est quand même pas simple d'expliquer rapidement ce que c'est les inégalités sociales de santé, mais je dirais que les inégalités de santé sont des inéquités, parce qu'elles sont considérées injustes et évitables, qui sont observées quant à l'état de santé de la population, mais entre les groupes sociaux. Et ces écarts qui sont observés dans la santé entre les groupes sociaux sont dus en large part à des facteurs qu'on appelle sociaux, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, mais aussi aux systèmes de soins, dans le fond, qui sont offerts à cette population-là. C'est complexe aussi parce que ces fameuses circonstances-là de vie sont aussi influencées par des forces plus vastes comme l'économie, la politique, les mesures sociales. Donc, concrètement, là, si on veut vulgariser le concept, c'est qu'il y a plein de choses qui influencent notre santé. On peut penser à l'éducation, à l'accès à une nourriture saine et variée, aux revenus, mais on a vu apparaître depuis une vingtaine d'années, dans la liste des déterminants sociaux de la santé, le développement à la petite enfance. Pourquoi? Bien, c'est que c'est particulièrement pendant la petite enfance que les enfants sont sensibles ou vulnérables aux influences. On parle d'influences négatives, mais surtout d'influences positives aussi. Hein, l'expression populaire qui dit « les enfants sont comme des éponges », bien, ça vient de fonctions biologiques, cérébrales qui existent vraiment, qui montrent que les enfants sont vraiment en mesure de s'adapter aux environnements. Leur cerveau est très plastique. Donc, les expériences qui vont être vécues pendant la petite enfance, autant positives que négatives, vont influencer autant le développement à court terme, mais aussi le développement à long terme, donc la santé à court terme et la santé aussi à long terme. C'est là qu'on se construit les bases essentielles des compétences, des aptitudes, mais aussi des ressources pour la santé. Et puis, c'est pour cette raison-là que les grandes organisations dans le monde reconnaissent qu'agir dès la petite enfance, en s'assurer que chaque enfant ait un bon départ dans la vie, c'est une des stratégies les plus efficaces pour réduire les inégalités sociales de santé.
Si on pose la question du côté du terrain d'un organisme qui côtoie une population en situation de vulnérabilité, bien d'abord, est-ce que vous pouvez me parler de votre organisme et aussi de vos motivations? Qu'est-ce que vous faites auprès de ces populations-là?
Oui. Donc, nous, la Maison Bleue, on est un organisme à but non lucratif et on s'est donné le mandat d'accompagner ces familles en contexte de vulnérabilité de la grossesse, donc le plus possible proche de la conception, jusqu'à l'âge de 5 ans, qui est souvent l'entrée à l'école pour les tout-petits, dans le but de favoriser le développement optimal des enfants qui grandissent dans ce contexte-là avec plein de défis. Donc, au final, c'est de se dire, bon, mais à l'entrée à l'école, est-ce qu'on peut réduire l'écart qu'il peut y avoir entre des enfants qui ont vécu toutes ces difficultés-là, ces facteurs de vulnérabilité, et d'autres enfants qui ont peut-être moins eu à passer au travers de tout ça. Comment est-ce qu'on a choisi de le faire? C'était de venir créer un partenariat entre le système de santé publique. Donc aujourd'hui, on travaille toujours avec les CIUS. Pour l'offre de services, on est toujours partenaire des CIUS, mais aussi les groupes de médecine familiale, donc les GMF. Et on allie ces trois acteurs-là, donc c'est vraiment chaque site, c'est une entente tripartite, pour venir gérer des services de santé publique autrement, pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle avec une situation particulière. Donc, pour chacun des sites, on vient combiner l'expertise de différents professionnels. Donc, pour chacun des sites de la Maison Bleue, on a notre équipe médicale, donc nos médecins qui viennent faire leur clinique. On a une sage-femme qui va faire le suivi de grossesse conjointement avec le médecin de famille et puis venir adresser aussi le postnatal immédiat. On a une travailleuse sociale qui nous aide à avoir une vue d'ensemble aussi sur les familles, les aider tout au niveau psychosocial. On a une infirmière qui reprend un petit peu le flambeau de la sage-femme en postnatal pour tout ce qui est de l'allaitement, de la vaccination, le suivi de santé générale de l'enfant, mais aussi de la famille, les petits pépins de santé qu'on peut avoir. Et puis, on va avoir soit éducateur spécialisé ou psychoéducateur, psychoéducatrice, dépendamment de notre partenaire, le CIUS, qui va venir soutenir les familles au niveau du développement de l'enfant, au niveau de l'attachement, tout ça. Donc, tous ces professionnels-là, c'est toujours la même petite équipe et il n'y a pas deux TS ou deux éducateurs. C'est une même équipe autour des familles qui crée ce cocon-là et qui vient offrir quand même une vision assez à 360 degrés des besoins des familles et qui vont venir faire des liens avec le reste de la communauté pour venir compléter l'offre de services de la Maison Bleue. Le CIUS nous fait un prêt de service de professionnels de la santé, nous offre une supervision clinique, tout ça. Le GMF nous offre un suivi médical pour nos familles. Cet aspect OBNL et puis l'aspect même physique de la Maison Bleue, c'est toujours comme des petites maisons dans des quartiers, donc notre ancrage dans le milieu communautaire nous permet d'aller chercher un petit peu tous ces morceaux-là, puis de créer un cocon autour des familles en situation de vulnérabilité pour les accompagner du mieux possible, les aider à renforcer leurs compétences, les aider à pallier à différents problèmes, démystifier le système pour les aider du mieux qu'on peut dans cette durée-là. Donc, on mise vraiment sur cette durée de la grossesse jusqu'à 5 ans pour les accompagner dans toutes ces étapes. Et à la fermeture, on essaie de passer le flambeau aussi aux écoles ou à d'autres milieux là, pour continuer le suivi.
Vous avez parlé de population vulnérable. Est-ce que vous avez des exemples de qu'est-ce que ça veut dire une population vulnérable?
Mm-hmm. Donc, il y a différents critères de vulnérabilité qu'on va prendre en compte. C'est rare qu'il y ait un critère qui vienne seul, un facteur qui vienne seul. À Montréal, il y a beaucoup de facteurs qui sont liés à l'immigration. Donc, il y a quand même une bonne proportion de notre clientèle qui est une clientèle immigrante, issue de l'immigration récente ou non. Donc, ça peut être un statut migratoire précaire, ça peut être des difficultés d'adaptation dans le milieu, une méconnaissance des langues officielles ici au Canada. Il peut y avoir aussi beaucoup d'impact sur la santé mentale des familles, donc des chocs post-traumatiques d'un passé, une trajectoire migratoire empreinte de violence, de deuil, d'abandon. Et donc, tout ça, ça peut créer des facteurs de vulnérabilité pour la famille en ce moment et l'enfant à venir. Ça peut être des problèmes liés à la santé mentale. On pense souvent vulnérabilité, précarité financière. Donc, ça fait aussi partie des facteurs de vulnérabilité. Puis pour la Maison Bleue, ça peut aussi être un autre enfant dans la fratrie chez qui on remarque aussi des retards dans le développement. Donc, ça peut être un indice pour l'enfant à venir que ça peut se reproduire, soit pour des raisons du contexte, des facteurs génétiques. Donc, ça nous donne une bonne opportunité de venir accompagner les familles un peu dans ce cadre-là. Mmh. Et ce qui est particulier aussi à la Maison Bleue, c'est qu'on intègre les enfants qui sont déjà nés, mais en bas de 5 ans, dans notre suivi. Donc, on peut vraiment venir suivre toute la famille mm-hmm. et la fratrie avec le petit bébé qui est à naître.
Et tout ça dans le but de réduire les inégalités auxquelles ces familles font face. Et justement, si je reviens sur les inégalités sociales de santé dont nous parlait Mme Poisson, qu'est-ce que nous dit la recherche sur les meilleures manières de réduire les inégalités sociales de santé?
Oui. Évidemment, si on avait une seule formule, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé la situation, tu sais, des inégalités. Malheureusement, c'est un problème, une situation qui est complexe, qui est multifactorielle, comme je le nommais tantôt. Ça nous prend de multiples stratégies si on veut tenter d'amoindrir ou ultimement d'éliminer, dans le fond, les écarts de santé entre les groupes sociaux, puis s'attaquer, dans le fond, aux bases de l'inégalité sociale. On a longtemps ce qu'on appelle la dérive sur les habitudes de vie, c'est-à-dire qu'on a pensé longtemps que pour réduire les inégalités, il fallait travailler sur les aptitudes individuelles ou travailler sur les habitudes de vie des individus, tu sais. Puis que s'ils avaient des meilleures connaissances, bien, ils changeraient leur comportement de santé ou leur comportement alimentaire, par exemple, pour ultimement atteindre un meilleur état. Mais on sait maintenant que c'est pas suffisant. Il faut, oui, soutenir directement les individus, mais il faut aussi travailler sur les variables qui influencent justement l'accès à la nourriture, qui influencent les comportements qu'on a par rapport à la nourriture, pour prendre un exemple. Donc, si on regarde la littérature, ce que ça nous dit, les évaluations de programmes, puis les grandes orientations qui sont déterminées par les commissions sur les déterminants sociaux de la santé ou l'Organisation mondiale de la santé, ça nous dit qu'il faut combiner quatre grands types d'actions. D'abord, je vais les appliquer aux enfants puis aux familles parce que c'est ça le sujet de notre conversation aujourd'hui. Il faut des actions directes auprès de l'enfant et sa famille. Donc, il faut soutenir le développement des enfants. Il faut s'assurer que ces enfants-là évoluent dans des milieux familiaux qui sont sains, qui sont sécuritaires, qui sont stimulants pour eux, pour justement que les enfants développent leurs compétences, leurs aptitudes, développent, dans le fond, les bases d'une santé future ultérieure, présente puis ultérieure. Il faut aussi, dans la mesure du possible, agir sur les communautés dans lesquelles les gens travaillent ou évoluent ou habitent, dans le cas des tout-petits. Donc, travailler sur les communautés, ça veut dire aussi développer l'entraide entre les familles, s'assurer que les communautés sont propices aux enfants, sont accueillantes, sont sécuritaires, où les familles peuvent avoir une espèce de pouvoir ou un pouvoir d'agir, hein, une espèce d'emprise sur qu'est-ce qui se passe dans leur communauté. Donc ça, c'est des facteurs aussi qui vont influencer la santé à court et à plus long terme. Ça prend aussi des actions sur les milieux de vie. On parle de l'offre alimentaire, des logements, que les logements soient accessibles, soient salubres, soient suffisamment grands pour permettre à une famille d'évoluer, tout ça. Il faut aussi qu'il y ait des espaces verts. Donc, on travaille à la fois sur une action directe auprès de l'enfant, sa famille, on travaille sur la communauté, on travaille sur les différents milieux de vie dans lesquels évoluent les enfants. On pense aussi, par exemple, à la qualité des services de garde. Hein, il faut que chaque milieu de vie où l'enfant grandit soit optimal pour son développement. Finalement, le dernier bloc d'action, c'est des actions politiques. Il faut évidemment qu'il y ait des mesures politiques au niveau de la conciliation travail-famille, par exemple, vie personnelle, qu'on ait accès à des services de garde de qualité, hein, puis que cet accès-là soit équitable, peu importe le groupe social dans lequel on appartient. Il faut aussi qu'on ait accès à des soins de qualité qui soient bien coordonnés entre elles. C'est sûr que des fois, ça peut paraître décourageant parce qu'au niveau d'un organisme, on n'a pas tous les leviers nécessaires pour agir sur toutes ces actions-là qui sont combinées. L'idée, c'est que, si possible, même au sein d'un organisme ou d'une maison bleue, comme Sarah vous en parlera dans quelques minutes, on essaie de tendre vers une combinaison d'actions. Mais c'est collectivement, comme société, que chaque organisme ait cette vision-là ou cette volonté-là de travailler à la réduction des inégalités sociales, que collectivement, on va y arriver parce que tous et chacun, on va combiner des stratégies à différents niveaux là, requis pour faire une différence.
Et je comprends que, dans le fond, les actions que vous mentionnez, j'imagine qu'il y en a une bonne part qui sont appliquées au sein de la Maison Bleue. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu?
Tout à fait. En fait, pour nous, ça a toujours été, dès le départ, un de nos volets que nous, on dit même d'intervention. Donc, on a nos offres de services directes sur nos sites. Mais ce rôle, nous, on l'appelle un rôle de trait d'union. Il n'existe pas juste au niveau de l'offre de services avec les familles, mais aussi de ce rôle-là que notre organisme peut avoir avec différents milieux, puis de se responsabiliser par rapport à cette richesse qui sort du terrain, puis comment aller la valoriser sur différentes plateformes ou à différents niveaux. Donc là, c'est bien beau de le dire. Là. Après ça, faut le faire. Ça peut être difficile, puis des fois, dans le contexte, il faut trouver les bons véhicules, les bonnes plateformes pour valoriser cette expertise-là. Donc, tu sais, pour reprendre les niveaux dont Julie a parlé, ou les dimensions. On a notre offre de service direct auprès des familles avec nos équipes d'intervention, nos CID, nos coordonnatrices, tout ça. Donc, on combine des services cliniques, des services psychosociaux, un peu de ludisme aussi avec des activités saisonnières pour vraiment venir créer un sentiment d'appartenance à la Maison Bleue. On essaie aussi de s'inscrire dans nos quartiers et venir créer des liens avec les organismes communautaires du quartier, mais aussi relier ces familles-là avec les organismes communautaires. On participe à beaucoup de comités, tables de concertation qui sont locales, et dont plusieurs viennent aussi essayer d'améliorer la situation de ces familles-là à l'échelle du quartier. Donc, ça peut être même des fois d'être sur un comité pour une ruelle verte. Ça peut être sur le comité salubrité de Côte-des-Neiges. Donc, on essaie vraiment de s'inscrire dans ces différents groupes pour valoriser ce que nous, on voit, ce que nous, on peut remarquer qui ressort de notre expérience de travail direct avec les familles. Bien, on peut aussi participer, là, je parle beaucoup de comité, de table de concertation, mais ça passe souvent par ça, ou bien des projets. On a été sur le projet de la lanterne avec Marie-Vincent pour la réduction de l'abus sexuel chez les tout-petits, puis l'éducation à la sexualité chez les tout-petits, qui voulait venir renforcer un peu les capacités aussi des milieux de garde en ce sens. Donc, on a valorisé notre expertise là-dessus. Et on essaie aussi de créer des liens avec nos CIUS, nos partenaires, le MSSS, pour encore une fois faire remonter les messages à ceux qui prennent des décisions qui ne veulent pas influer ce qui se passe après ça sur le terrain. Donc, c'est une boucle qu'on essaie de créer à différents niveaux là, pour s'assurer que le message passe.
Vous êtes en quelque sorte les porte-parole, finalement, d'une communauté qui n'a pas nécessairement d'emblée l'impression qu'ils peuvent agir sur leur milieu de vie ou sur leur quartier.
Un des porte-paroles.
Oui.
On va le dire comme ça, on est un des porte-paroles. Puis c'est important de venir valoriser la parole de d'autres organismes aussi qui vont avoir leur perspective. Et puis aussi la voix des familles avec lesquelles on travaille, effectivement.
Ce qui est particulier, je dirais, à l'organisation de la Maison Bleue, c'est cette capacité-là de viser les inégalités sociales, mais en touchant plein de stratégies. Puis c'est encourageant, tu sais, on peut penser que les inégalités sociales de santé, c'est la responsabilité des gouvernements, hein, de mettre des mesures en place pour redistribuer la richesse, de mettre des mesures en place de conciliation travail, vie familiale, vie personnelle. Mais c'est aussi possible, à l'échelle d'une organisation, de combiner les stratégies, hein, des actions directes auprès de l'enfant, auprès de la santé de l'enfant, de la santé de la famille, mais aussi des actions sur leur communauté, sur les milieux de vie, puis de favoriser aussi l'accès à des soins de qualité, coordonnés. C'est vraiment, pour moi, un exemple là, de bonne pratique pour réduire les inégalités sociales là, dans les communautés où elles travaillent.
Et si on considère qu'il y a peut-être d'autres aspects à considérer pour agir, ou quelle structure faudrait mettre en place, comment est-ce qu'on aborde ces changements-là? Est-ce que la recherche peut nous indiquer quelques pistes à cet égard?
Mais c'est ça, c'est vous allez dire, bon, mais c'est logique. Oui, c'est logique. C'est que comme il y a de multiples facteurs qui influencent la santé, comme ça nous prend de multiples stratégies pour agir sur ces facteurs-là, bien, ça nous prend aussi plein d'acteurs qui viennent y contribuer. Vous savez, au Québec, c'est particulier. La responsabilité des enfants, bon, appartient évidemment aux parents d'abord, mais appartient aussi à trois grands ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère de la Famille, de l'Enfance. Donc, ça prend une concertation d'acteurs autour des enfants au niveau politique, mais ça prend aussi une concertation d'acteurs à des niveaux plus locaux. Ça prend des municipalités hein, qui adhèrent aux municipalités amies des enfants. Ça prend aussi des organismes communautaires qui vont avoir comme mission de soutenir les familles. Ça prend donc une multitude d'acteurs, des acteurs qui sont souvent pas exclusivement du milieu de la santé. Ça, c'est vraiment l'ingrédient clé, je vous dirais, la concertation, mais le travail aussi en intersecteur, l'intersectorialité. Dans le cas des tout-petits, ben, ça veut dire qu'il faut aussi que les parents soient au cœur des stratégies là, qu'on met en œuvre. Souvent qu'on leur donne la parole, qu'on les implique, selon ce qui est possible dans chacun des organisations, ou même si c'est au niveau du ministère ou au niveau d'une organisation locale, qu'une place importante soit laissée aux parents et aux familles, si possible même à l'enfant lui-même, à la parole de l'enfant, quand c'est possible. Mais que c'est ensuite qu'on implique tous les acteurs qui ont un rôle ou une responsabilité directe auprès des enfants et des familles, mais aussi à ceux qu'on pense peut-être moins, qui ont une responsabilité indirecte, comme les acteurs municipaux ou le ministère des Finances ou d'autres organisations, le transport, les gens qui travaillent en immigration, les gens de la solidarité sociale, les logements, parce que tous ces facteurs-là vont influencer de façon assez importante la santé des enfants qui est en train de se construire.
Donc, il y a comme le positionnement micro de tout ce qu'on peut faire pour agir, mais aussi le macro qui est peut-être plus à l'échelle politique. Vous en avez parlé un petit peu, Mme Pisanou, de cette concertation-là. Forcément, votre organisme incarne une certaine concertation parce que vous travaillez en équipe multidisciplinaire. Mais est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Comment est-ce que ce principe de concertation est appliqué?
Au-delà même de l'interdisciplinarité, nous sommes une organisation dont l'offre de services est intersectorielle. Donc, comme je l'ai dit, chaque site, c'est une entente entre trois instances déjà à la base. Il peut y avoir différentes façons de faire de la concertation ou de l'intersectorialité. Tantôt, j'ai parlé des comités, des tables. Ce n'est pas le seul moyen. Au niveau de l'offre de services directs, les intervenants, ça peut être juste un téléphone. Ça peut être de juste inviter un autre organisme à venir parler de ses services dans un de nos groupes. Ça peut être de faire des actions ensemble, faire un projet ensemble. Donc, ça peut être à ce niveau-là. Après ça, au niveau de la coordination, de mon rôle à moi aussi, encore une fois, c'est de venir faire ressortir ça à un autre niveau. Je n'ai pas encore mis le ministère des Finances, Julie, sur ma liste, mais j'en prends note. Mais effectivement, c'est de venir passer ces messages-là, même au niveau des différents ministères. Il y a beaucoup de silos, puis on comprend la nécessité quand même, des fois, de cadrer les choses. Mais c'est important de faire ressortir ces points-là de convergence entre les différents acteurs, puis de montrer à quel point ça peut être bénéfique sur le terrain. Puis nous, on le voit un petit peu comme notre rôle que de faire cette démonstration et de faire ce pont-là entre ce que vous disiez tantôt, le micro et le macro. Donc voilà, c'est le pari qu'on se donne en espérant l'atteindre.
Puis ça revient un peu à ce que vous disiez plus tôt par rapport à l'approche globale sur les déterminants ou les stratégies, les actions qui doivent tenir compte pas juste de la petite enfance en soi, tout seul, isolé, en silo, mais de tous les aspects sociaux qui font finalement qu'on se construit une santé.
Oui, puis ça nous permet aussi d'avoir une action qui a une plus grande portée. Nous, on est limité par notre capacité. On suit un certain nombre de familles par année, par site. Mais en adressant ces autres aspects, ça nous permet d'avoir un impact encore plus à long terme. Et puis sur des communautés qui vont même au-delà de nos quartiers où on a des sites. Donc, ça permet vraiment d'élargir aussi la portée de notre mission.
Mm-hmm. J'ai une autre question par rapport à les actions qu'on peut faire qui sont, dans le fond, sur plusieurs niveaux. On avait parlé d'une action de qualité lors d'une autre rencontre. Qu'est-ce que c'est une action de qualité? Est-ce que Julie peut nous répondre?
C'est qu'effectivement, un des autres éléments qui nous vient de la littérature scientifique, c'est que bien, il faut que ce qu'on met en œuvre, puis encore là, vous allez me dire, bien, franchement, c'est bien évident que ça soit de qualité, mais des fois, la qualité, il faut la comprendre dans une perspective à plusieurs niveaux, dans le fond. C'est important que la qualité de ce qu'on met en œuvre touche autant la structure, les processus que les résultats. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si on veut vraiment, tu sais, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est complexe s'attaquer aux inégalités sociales de santé. Et c'est complexe essayer de travailler sur les facteurs qui sont positifs puis réduire les facteurs qui peuvent être négatifs pour le développement des enfants. Mais pour y arriver, ça prend... c'est possible, parce qu'il y en a des initiatives qui y arrivent. Bien, ça prend les ressources financières puis les ressources humaines qui sont proportionnées à nos ambitions. Hein? Si on veut vraiment soutenir le développement des enfants, bien, ça prend de l'argent, ça prend des ressources humaines, ça prend les moyens d'atteindre les objectifs qu'on se donne. Donc, ça prend du personnel qui est formé aussi, de façon continue aussi, avec de la supervision, pour être sûr qu'on atteint les objectifs qu'on se donne. Ça prend aussi des processus de qualité. Et donc, ces processus-là, c'est si possible d'intervenir le plus précocement possible. C'est pour ça que des gens comme moi qui travaillent sur le développement des enfants depuis toujours, on dit que ça commence bien avant la conception. Hein? Il faut que les femmes soient dans des environnements, les familles soient dans des environnements optimales avant la conception, puis pendant la conception aussi, des environnements, mettons, alimentaires, toutes les multivitamines nécessaires, tout ça pour que on ait plus de chances que l'enfant se développe bien. Donc, le plus on va agir précocement pour soutenir la santé de la famille qui attend un enfant, le plus on va avoir un effet positif. Ça prend aussi une intensité d'intervention qui est suffisante. C'est plus seulement de fournir des informations ou des connaissances aux futurs parents sur les habiletés parentales. Il faut aussi aller plus loin, hein, faire un accompagnement, des visites à domicile, offrir des cours prénataux, des cours postnataux, un soutien à l'allaitement, par exemple. Ça prend une certaine intensité si on veut influencer le développement de l'enfant. Et ce qu'on dit aussi, c'est que ça prend parfois de la relance ou des suivis dans le temps, même si on a un programme ou une intervention qui dure quelques semaines, bien, ça aide quand on peut relancer quelques semaines plus tard les familles, voir comment ça va, est-ce qu'ils ont pu appliquer les principes, qu'est-ce qui leur manque pour aller plus loin ou pour continuer de travailler dans le sens où ils auront été accompagnés. Donc, au niveau des processus aussi, ça prend de la qualité. Puis souvent aussi, ça prend des mécanismes pour s'assurer que ce qu'on visait a bel et bien été atteint. Ce qu'on voulait faire a été fait de la façon dont on voulait le faire. Donc, tout un processus d'évaluation pour être sûr que les objectifs qu'on s'est donnés, est-ce qu'on les a bien atteints, puis de la bonne manière aussi.
Puis donc, j'imagine que c'est un défi aussi à cause de la durée des actions ou des services, de la trajectoire pour chacune des familles, chacun des enfants. C'est l'évaluation, il faut qu'elle se fasse, j'imagine, sur le long terme. On ne peut pas, après 3 semaines, faire une évaluation, voir si ça a bien marché ou pas bien marché.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est des principes qu'on souhaite qu'ils soient intégrés si on veut vraiment faire une différence. Fait que c'est de se donner des mécanismes qui sont réalistes pour chaque organisation, mais qui assurent une certaine assurance qualité. Tu sais, que ce qu'on a dit qu'on ferait parce qu'il y avait un rationnel derrière ça, bien, on le fait effectivement. Puis bien, les résultats qu'on pense obtenir, bien, effectivement, on en obtient. Donc, on est sur la bonne voie. Sinon, bien, il faut des mécanismes pour se réajuster. Donc, c'est à chaque organisation, dans le fond, de se doter de méthodes pour y arriver. Puis ça va faire qu'on ne sera pas en train, parfois, d'accroître les écarts entre les groupes sociaux. C'est que si on n'a pas une espèce de vigie sur est-ce qu'on fait bien ce qu'on veut faire, bien, des fois, en faisant certaines actions, on peut faire l'inverse aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on met des actions pour réduire les inégalités sociales, mais il faut être sûr que c'est effectivement, on n'accroît pas les écarts entre les groupes sociaux. Que, par exemple, dans l'exemple d'offrir des services de garde éducatifs de haute qualité, bien, il ne faut pas que ce soit juste les familles favorisées qui en profitent, parce que de toute façon, leurs enfants, ils sont probablement déjà très bien stimulés, puis ils ont ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, puis des logements, puis etc. C'est peut-être nos enfants qui vivent dans des contextes de plus grande adversité sociale et économique qui auraient pu bénéficier ou qui auraient dû bénéficier d'un soutien et d'un milieu de qualité comme les services de garde peuvent l'être quand ils ont les ressources, le financement, la formation, etc. Puis pour l'instant, on voit que ce n'est pas le cas. Donc, il faut mettre en place toutes sortes de mesures pour essayer de pallier ça. Donc, quand on est en mesure de faire des évaluations, bien, on est en mesure de voir aussi que là, c'est nos clientèles les plus favorisées qui bénéficient toujours des interventions populationnelles. Donc, il faut aussi des actions qui sont ciblées auprès des populations les plus à risque pour qu'on soit sûr de réduire les écarts puis de travailler sur l'amélioration de la santé de tous.
Et si on ramène ces idées-là, si je reprends peut-être juste le concept d'évaluation, est-ce mm-hmm. que vous en faites à la Maison Bleue ce genre de retour sur est-ce que les mesures ou les projets mis en place pour certaines familles, certaines populations doivent être réajustés ou est-ce que c'est un bon coup, au contraire, il faut continuer dans cette voie-là? Est-ce que vous faites ce genre d'aller-retour pour vos programmes?
On essaie de plus en plus, mais comme Julie l'a dit, ça, le financement ou les moyens d'une organisation, la disponibilité des ressources a beaucoup d'impact là-dessus. On fait souvent des partenariats avec des équipes de recherche qui vont venir nous aider à pousser certaines questions plus loin. On a eu un partenariat avec Avenir d'enfants il y a quelques années qui nous ont vraiment permis de mieux comprendre notre impact, qui ont fait ressortir aussi des indicateurs au niveau clinique autour de la naissance des enfants, tout ça. Mais on essaie aussi à l'interne de se pencher quand même sur nos processus, tout ça. Julie l'a dit, est-ce qu'on fait ce qu'on dit qu'on fait? Et puis, des fois, c'est de dire, bon, mais est-ce que je peux vraiment venir mesurer si je réduis les inégalités sociales? Ça peut être difficile, vous l'avez dit, il y a des choses qui se voient à long terme, mais on peut se reprendre des fondements qui, eux, peuvent être mesurés. On sait c'est quoi les ingrédients clés ou qu'est-ce qui peut être bénéfique pour les enfants en bas âge. La recherche nous a montré qu'est-ce qui pouvait être bénéfique. Mais alors, est-ce qu'on peut regarder si on est en mesure de mettre ces éléments-là bénéfiques en place dès le départ? Donc déjà, si on est capable de mesurer ça et si on peut dire oui, on le fait, ben déjà, on est dans une meilleure posture. Puis après ça, on peut voir si au courant de notre suivi, nous, on suit les familles aussi pendant 5-6 ans, donc c'est important d'avoir une vision sur cette continuité, on peut vraiment s'assurer qu'on reste toujours sur la bonne voie. Dans le meilleur des mondes, on aurait des partenariats pour avoir des projets sur du 10 ans, du 15 ans, du 20 ans. Un jour, peut-être que ça va arriver, peut-être que quelqu'un qui écoute ce podcast va avoir envie de m'envoyer un courriel par la suite. Mais ça, c'est toujours intéressant pour nous. Donc, on essaie de combiner ce qu'on peut faire à l'interne et puis des partenariats avec des milieux de recherche, des milieux académiques pour venir combler ces trous-là, on va dire, ces questions qu'on peut avoir sur notre pratique. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement important puis qui est très difficile. Il faut presque qu'une organisation fasse un sacrifice, mais à quelque part où il faut vraiment se dire que ça va valoir la peine pour libérer des ressources pour le faire. Mais même si on fait affaire avec une organisation extérieure, une équipe de recherche, il faut des ressources à l'interne pour accompagner ces ressources-là externes, pour venir faire le lien avec l'intérieur, pour pas que la résultante ne soit pas utilisable par l'organisation aussi par la suite, parce que c'est ça aussi qu'on veut faire. Donc, tout ça, ça demande quand même un certain sacrifice ou un engagement énorme de la part d'une organisation, que ce soit un organisme communautaire ou une OBNL comme la nôtre.
C'est le défi de la recherche partenariale.
Exact, exact. Donc, ça, c'est le volet un peu plus évaluation. De s'assurer de la qualité de nos services, ça peut aussi passer par d'autres aspects. On est très chanceux d'avoir nos partenariats avec les CIUS, donc des professionnels qui ont ce suivi-là avec leur instance d'appartenance, de la formation, de la supervision clinique.
Donc, merci beaucoup, Julie Poisson, professeure au département d'éducation et formation spécialisée à l'UQAM, pour votre contribution aujourd'hui pour nourrir cette réflexion qui est fort pertinente pour notre société. Et Sarah Pisanou, qui est directrice de programme à la Maison Bleue, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui.
Ça nous a fait plaisir. Merci à vous.
Merci.